Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Au sommaire de ce 65e numéro de Force 7, une visite de chantier a eu lieu à Manosque sur le futur centre aqualudique communautaire, un projet structurant à 15 millions d'euros. Reportage dans ce magazine. Manosque a inauguré son pôle petite enfance. Trois structures sont regroupées dans des bâtiments et environnements agréables. Nous entendrons les interviews du maire de Manosque et du président de la CAF 04. À Digne, s'est tenue une soirée d'échange autour des voies cyclables. Le reportage d'Odile Frison dans un instant. DLV Agglo organise un premier festival pour les tout-petits dans 4 communes de son territoire. Nous écouterons Sandra Faure et Béatrice Garcia. Et puis nous clôturons ce magazine avec l'interview de Claude Demézel, sénateur maire honoraire de Volx dans le 04. Il publie un livre sur ses engagements et mandats, mais aussi sur son enfance en pays minier, ses confidences sur toute une vie dédiée aux autres, dans un instant. On ouvre ce magazine, François, avec une information importante concernant la RN85.
Et une bonne nouvelle, près de 50 millions d'euros pour la desserte de Digne-les-Bains, autrement dit la route nationale 85. Les étapes du chantier d'aménagement sont validées. Il y a eu un comité des financeurs à l'aménagement de la desserte de Digne-les-Bains qui s'est réuni mardi dernier sous la présidence de Marc Chapuis, le préfet des Alpes de Haute-Provence, en présence de Jean-Charles Borghini, conseiller régional sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentant Renaud Muselier, le président, Eliane Bareil, présidente du conseil départemental, et de Patricia Granet, présidente de Provence-Alpes Agglomération, tous financeurs du projet. Et à l'issue de cette réunion, les financeurs s'engagent à porter le financement de l'opération à hauteur d'un total de 45,9 millions d'euros dans le cadre du prochain contrat de plan État-Région 2023-2027, soit un engagement supplémentaire de 15,9 millions d'euros au-delà des 30 millions inscrits au contrat de plan 2015-2022. Les financements de ces 15,9 millions d'euros sont répartis de la manière suivante: 40% État, 40% Région, 18% Conseil départemental et 2% Provence-Alpes Agglomération. La participation des collectivités est désormais figée. Les financeurs se sont accordés sur le phasage du projet et ils ont validé la poursuite des travaux dès 2023 sur 3 sections. La finalisation tout d'abord du giratoire d'Aiglun, puis l'aménagement de la section entre la sortie de Malmoisson et le giratoire d'Aiglun avec un nouveau giratoire au Chaffaut, et enfin la création d'un créneau de dépassement en direction de Digne-les-Bains au niveau de la Maison de Pays et l'aménagement de la section entre les Duilles et l'entrée de Malmoisson. Puis à partir de 2024, les travaux se poursuivront sur la section entre Maligé et les Duilles, puis sur la section avant l'arrivée à Digne-les-Bains dès 2025, cette dernière section nécessitant un travail technique complémentaire avec la SNCF et l'agglomération P2A. Les cofinanceurs se réuniront à étapes régulières afin de faire le bilan de la consommation des crédits engagés et pour examiner la faisabilité des travaux restant à réaliser avec les crédits disponibles. A noter qu'il y a une prochaine réunion du comité de pilotage qui aura lieu en juin 2023. Une excellente nouvelle donc pour les habitants des Alpes de Haute-Provence et notamment les résidents du pays dignois, avec près de 50 millions d'euros pour la RN85 en ce qui concerne la desserte de Digne-les-Bains.
« le futur centre aqualudique de Manosque sort de terre.
Le chantier est imposant et le projet structurant. Décidé par les élus de Durance-Luberon-Verdon agglomération en 2017, le centre aqualudique est en construction juste derrière l'hôpital Louis-Raffali, dans un quartier en plein développement. On sait d'ores et déjà que le centre portera le nom de Bernard Jean-Mé Peralta, ancien maire de Manosque et président de l'agglomération, décédé en début d'année. Récemment, élus et techniciens étaient invités pour une visite des travaux en cours. Je rappelle que sur un terrain de près de 10 000 m², plusieurs bassins et équipements pourront accueillir le public dans un cadre soigné et agréable, d'un bassin sportif de 25 mètres sur 8 lignes d'eau à une aire de jeu splash pad, en tout presque 5 000 m² de divers équipements aquatiques et même un espace bien-être pour prolonger les sensations. Enfants et adultes, familles, sportifs, les nageurs trouveront là une structure de qualité pour laquelle l'agglo a mis le paquet. En tout, 15 millions d'euros pour un bijou architectural et sanitaire qui manquait cruellement sur le territoire communautaire. Sous la conduite et les commentaires de l'architecte Éric Pierron, les visiteurs ont pu visionner concrètement l'avancée des travaux. Le gros œuvre voit intervenir une vingtaine d'entreprises essentiellement régionales et pour l'instant, le calendrier est respecté. L'ouverture au public est prévue en janvier 2024. Suite à cette visite, je vous propose d'écouter le président de la DLVA, Jean-Christophe Pétrini, puis l'architecte Éric Pierron et enfin le premier adjoint au maire de Manosque, Alain Demoulin. Éric Pierron, vous êtes architecte et le chantier du centre aqualudique avance bien.
Oui, on est exactement dans les temps, donc tout va bien. On est à la fin du gros œuvre. On attaque les charpentes, la pose des charpentes le mois prochain. Tout se passe comme il faut. Et on a la chance d'avoir des entreprises qui jouent le jeu et qui travaillent vraiment très bien.
C'est une vingtaine d'entreprises qui sont là.
En tout, une vingtaine de lots, effectivement, avec donc les plus importants qui sont le gros œuvre, la charpente métallique, les façades, et puis bien entendu, tous les lots techniques, fluides, traitement d'air, traitement d'eau, filtration, bassins, etc.
On peut rappeler le nombre de bassins que va avoir ce centre ?
On a 4 bassins, donc un bassin sportif, un bassin ludique avec plusieurs activités possibles en simultané, c'est-à-dire un parcours de gémassant, bulles, etc. Et puis un petit bassin water polo, un fond mobile qui permet d'avoir les bébés nageurs. On a également une pataugeoire pour les bébés avec des jeux d'eau, des toboggans, des choses comme ça. Et puis un bassin nordique, donc un bassin extérieur qui est un bassin qui a l'avantage d'être tout à fait économe en énergie. Parce que paradoxalement, même s'il est dehors, il coûte moins cher en réchauffement, puisque la dépense principale dans un bassin, c'est le chauffage de l'air et son traitement, déshumidification, déchloramination, etc. Donc, on a un bassin extérieur qui est très intéressant pour la pratique du sport, puisqu'on aura 2 lignes de 25 mètres, et puis également pour des activités ludiques, puisqu'il y a également là aussi un parcours avec des bancs, des gémassants, des douches, etc., etc. Pour terminer, le dernier, mais pas le moins, c'est la partie bien-être, avec un hammam, 2 saunas, 3 spas, des douches à thème, douches glacées, douches massantes, douches à jet, à bulles, à lumière, etc., etc.
Une question ô combien d'actualité, comment sera chauffée l'eau ?
Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est un grand sujet. Donc l'eau, on a la chance d'avoir à proximité de cette piscine une chaudière bois, et une chaufferie bois, pardon. Et donc, on est sur le réseau de chauffage urbain, ce qui permet effectivement d'avoir de l'énergie bon marché et de chauffer cette piscine dans de bonnes conditions.
À vos côtés, Jean-Christophe Pétrini, qui préside l'agglomération Manosquine. C'est un chantier conséquent et c'est une note également de 15 millions d'euros.
Ah oui, il n'y a rien sans rien, hein. C'est évident aujourd'hui. C'est le plus gros programme que l'agglomération a porte depuis sa création. C'était un programme sur lequel on avait délibéré dès 2017 avec la présidence de Bernard Jean-Mé Peralta. L'idée principale était, pour qu'il y ait vraiment une vision territoriale, c'était de pouvoir donner accès à l'ensemble des enfants du territoire au savoir nager, ce qui était loin d'être le cas et qui est loin d'être le cas aujourd'hui, et notamment en plus avec l'état assez difficile de la piscine de la Rochette. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc avec M. Bernard Jean-Mé Peralta, on avait eu l'idée de monter ce centre aqualudique qui permettait de donner accès à tous les enfants de territoire au savoir nager. C'est pour ça que c'est l'agglomération qui l'a porté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que des scolaires dans ce bassin, mais dans ce centre, puisqu'il y aura bien entendu tous les tissus associatifs, le sport, hein, avec le PM Natation qui va pouvoir maintenant travailler dans d'excellentes conditions, et surtout un accès aux habitants du territoire et aux touristes également, mais aux habitants du territoire qui n'avaient pas, notamment sur le sud du département, la possibilité d'accéder à une piscine pour pouvoir les accueillir.
C'est un outil ludique, sportif et en même temps attractif.
Tout à fait. De toute façon, l'agglomération a un rôle d'aménagement du territoire et notamment sur sa ville-centre. Cet équipement vient compléter l'aménagement que nous avons fait depuis des années sur la ZAC Chantepruniers. Aujourd'hui, nous avons donc un pôle santé avec l'hôpital, un pôle éducation avec l'école internationale, un pôle juridique avec la mise en place du palais de justice. Voilà, nous aménageons le territoire pour la ville de Manosque, c'est notre rôle, parce qu'on a besoin aussi d'avoir une ville-centre qui soit forte pour que notre agglomération le soit aussi. Et là, donc cet équipement vient compléter cet aménagement-là, et nous en sommes très fiers.
En ce qui concerne le calendrier, vous êtes dans les temps ?
Alors, on est dans les temps, et d'ailleurs, j'en profite pour remercier l'entreprise Ragoussi qui a œuvré sur le gros œuvre, avec un excellent travail. Bon, c'est pas terminé, mais le plus gros du gros œuvre a été fait, et qui, vous l'avez dit, est resté dans l'épure du temps. Hein. Donc, on n'a pour l'instant pas de problème de retard, en espérant que ça puisse continuer sur la durée du chantier. Je rebondis également, puisque vous parlez du temps, on a aussi, pour l'instant, malgré la hausse des prix des matériaux que vous connaissez, pour l'instant, on reste dans notre épure budgétaire. Donc on a un contrôle, bien entendu, assidu avec les entreprises sur les matériaux employés. Mais pour l'instant, on reste dans ce qu'on avait prévu en matière budgétaire.
Dernière remarque, mais ô combien importante, c'est une décision que vous avez prise en conseil communautaire. Ce centre aqualudique est déjà baptisé du nom de Bernard Jean-Mé Peralta.
Moi, je crois que c'était une évidence. Je crois que Bernard aurait été heureux de pouvoir visiter le chantier, lui qui était un aménageur et qui avait ça dans le sang. Donc c'était normal que ce futur centre porte son nom. Il en a été à l'initiative et c'est vrai que c'est avec un petit pincement au cœur qu'on a fait cette visite aujourd'hui en son absence.
Alain Demoulin, premier adjoint à la ville de Manosque, c'est un chantier conséquent mais ça va être aussi un outil très attractif pour la ville.
Déjà, un grand plaisir, c'est de voir des choses concrètement et de ne plus être sur du papier. Donc oui, trois bassins pour les gens de la ville, mais par tout le territoire. On va passer d'une petite piscine de 25 mètres tournesol à un bel établissement aqualudique, avec aussi bien pour la santé que pour le sport, que pour le plaisir. Et vraiment, ça sera un très très bel outil.
Ça va intéresser les familles également, avec un bassin amovible pour les bébés nageurs.
Alors on va avoir la chance d'avoir la notion d'avoir un plancher qui va remonter pour baisser la hauteur d'eau, que ce soit les bébés nageurs, mais que ce soit aussi pour tout ce qui est gymnastique douce et tout, pour le sport santé et tout, et ça c'est un plus.
Il y a également le fait que ces piscines, puisqu'il y a plusieurs bassins, sont chauffées par la chaufferie à bois à côté.
Au départ, c'est l'idéal, c'est qu'au moins on n'aura pas ce qu'on vit actuellement avec les problèmes d'énergie. C'est qu'on va espérer que notre chauffage central de l'hôpital va nous permettre d'avoir des économies et d'énergie sur la piscine, mais même sur le secteur, puisque tout le parc qui est autour va être alimenté par cette chaufferie.
Avec également la possibilité de venir du centre-ville, c'est assez facile d'accès avec des possibilités de parking.
Ce qui est bien, c'est d'abord parce qu'il y aura beaucoup de parking. Alors, c'est pas l'idée, c'est que les gens viennent en voiture, mais il y aura un axe piéton assez facile parce qu'on n'est pas loin du centre-ville. On aura un axe vélo aussi puisqu'il y aura des pistes cyclables. L'idée justement, c'est de ne pas engorger en parking les gens, mais que les gens du centre-ville allez 10 minutes à pied, vous êtes à la piscine, ce qui n'est pas pire qu'aujourd'hui à La Rochette par rapport au centre-ville.
Paul Petite Enfance de Manosque, dessine-moi un avenir.
Ce clin d'œil à la fameuse formule de Saint-Exupéry est pour cause. Le nouveau Paul Petite Enfance de la ville se nomme le Petit Prince. La silhouette du héros tendrement désinvolte et innocent de l'auteur de Terre des Hommes a inspiré les professionnels et leurs partenaires du lycée des métiers Louis-Martin Brett. Après avoir étudié l'œuvre de Saint-Ex, en cours, la classe de métallurgie a réalisé une magnifique sculpture évoquant le livre qui a donné son nom au lieu. Sont prévus également par la même classe, une pergola et deux ombrières en métal qui agrémenteront le pôle. Grâce à une extension, le multi-accueil collectif passe de 25 à 45 berceaux et s'appelle désormais Les Petites Planètes. Le multi-accueil familial, fort de 15 places, porte le nom de l'Explorateur. Et enfin, le relais Petite Enfance, géré par la DLVA et s'adressant aux assistants maternels de droit privé, aux enfants et familles employeurs, se nomme, lui, Les Petites Pousses. Près de 1100 m² de locaux clairs et bien agencés, auxquels s'ajoute un jardin commun où les bambins peuvent s'égayer en sécurité. Conseillère municipale déléguée à la petite enfance, Véronique Kojnacki a présenté la structure et les personnels. Elle a aussi salué les partenaires, notamment enseignants et lycéens de Martin Brett. De son côté, et soutien financier de l'opération, Alain Picosi, qui préside la Caisse d'allocation familiale des Alpes de Haute-Provence, a rappelé la vocation d'éveil et d'accueil à la vie collective que représentent les crèches, ainsi que la volonté au niveau national d'ouvrir 30 000 places supplémentaires en 5 ans dans les structures familiales. Je vous propose de l'écouter, mais avant lui, Camille Galtier, maire de Manosque, revient sur cet investissement important. Camille Galtier, ce pôle Petite Enfance à Manosque, c'est une nouveauté, mais en même temps, c'est une réflexion.
C'est une réflexion puisque cette crèche existait auparavant. Elle a été fermée il y a une dizaine d'années lors de la construction de la nouvelle crèche du Moulin Neuf. Et c'est vrai que cette nouvelle crèche du Petit Prince, puisque le personnel a souhaité faire un nouveau nom, avoir un nouveau départ sur cette crèche-là, bah c'est évidemment un nouveau départ pour cette crèche du centre-ville, et j'y tiens, puisque quand on parle de rénovation, requalification des espaces publics, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi du service public dans les cœurs de ville, et cette crèche à proximité, à deux pas du cœur ancien de la ville de Manosque, est une réponse aux problématiques des familles. On ajoute une vingtaine de lits, grâce notamment au soutien de la CAF, hein, il faut le dire, et au soutien de l'État sur l'investissement qui a été mis sur cette crèche. Et on fait aussi un rassemblement, puisqu'il y a la crèche familiale, il y a le relais Petite Enfance aussi qui est présent, et ce qui permet d'avoir un lieu au final dédié à la jeunesse et à la petite enfance, et je crois que c'est très positif pour la ville de Manosque.
Avec ces trois structures qui pourront travailler ensemble également.
Ah, il y a une complémentarité évidente, il y a une transversalité à trouver aussi entre les personnels, et je crois que c'est ce qui se fait depuis quelques mois et depuis cette ouverture. Donc ça va continuer, s'améliorer, c'est certain, et avoir une évolution positive durant les prochaines semaines.
C'est un dossier important avec plus de 2 millions d'euros d'investissement.
Un investissement très important sur l'année 2021 de la ville. Ça a été l'un des premiers dossiers que nous avons eu lors de cette nouvelle municipalité. Il fallait respecter les engagements, il fallait améliorer, puisque dans le projet global n'étaient pas pris en compte les espaces extérieurs. Nous avons fait, entre guillemets, une rallonge de 300 000 euros pour pouvoir faire des extérieurs où l'on se trouve, cher monsieur Malabave, et je crois que c'est très réussi, les familles et les enfants se retrouveront dans un espace apaisé.
C'est un effort effectivement de la ville, mais qui complète aussi parfaitement l'intérieur avec des meubles adaptés.
Des meubles adaptés, des meubles légers pour permettre au personnel aussi de travailler dans de bonnes conditions. Je crois que c'est important que le personnel se sente bien, s'habitue et accentue le travail sur le volet d'adhésion à cet établissement qui ouvre ses portes.
À vos côtés, un partenaire essentiel, c'est le président de la CAF, Alain Picosi. Vous avez mis sur la table 814 000 euros.
C'est ça, c'est le montant, 814 000 euros. C'était un peu plus de 50% au départ du montant des travaux, puisque je ne compte pas l'extension extérieure qui n'était pas prévue. Voilà, effectivement, un gros montant que nous avons pu récupérer sur des budgets qui nous sont alloués de façon nationale, qui nous permettent d'aller sur des projets de territoire comme celui-ci, qui sont proposés à nos administrateurs. Et en lien avec ce projet, bien évidemment, nous avons acquiescé et validé la proposition. Donc effectivement, 814 000 euros ont été investis.
Il y a un mot essentiel dans votre politique familiale, c'est accueil.
Oui, ça fait partie dans la politique famille dans laquelle la CAF est un petit peu au centre. Il y a effectivement l'accueil des jeunes enfants qui reste une priorité essentielle. Nous sommes là pour développer en lien avec les collectivités, ça c'est important de le signaler, notamment aujourd'hui la ville de Manosque, hein, de pouvoir créer des projets pour abonder dans le sens des familles, en offrant au plus grand nombre possible des places d'accueil de jeunes enfants. Bien évidemment, en créant à la fois une mixité sociale, mais aussi une intention tarifaire pour rendre accessible à tous les places de crèche. Donc c'est pour ça que cette collaboration avec les collectivités sont importantes pour arriver à ce qu'on appelle des crèches PSU, hein, qui fonctionnent en collaboration avec les collectivités, je l'ai déjà dit, mais c'est important.
Avec également une politique inclusive qui permet d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Vous avez visité ces locaux, votre sentiment ?
Écoutez, je suis ravi. On est dans un endroit qui date. Je n'ai pas l'année de naissance du bâtiment, mais la rénovation est franchement magnifique. C'est un endroit feutré, tout en arrondi. On a un sentiment de plénitude quand on traverse les différents espaces, hein, qui sont à la petite enfance, les un peu plus grands. Il y a aussi le relais petite enfance qui est important. Non, la rénovation et l'extension est franchement magnifique. Ça reste un espace de travail pour les gens qui vont y œuvrer, je pense, fort sympathique, et puis un espace de bien-être pour les enfants, avec des accès extérieurs. Enfin, c'est vraiment une chance d'avoir un endroit comme ça sur la ville de Manosque. C'est pas toujours facile d'être dans un environnement aussi intéressant.
Dans votre intervention, vous avez signalé que depuis plusieurs années déjà, la France perd 5000 places de crèches tous les ans. Mais la CAF veut remettre les pendules à l'heure en créant 30 000 places de crèche.
Oui, effectivement, c'est un constat qui est difficile à entendre, mais sur le territoire de la France, oui, 5 000 places, vous l'avez dit, par an ont été perdues pendant ces 5 dernières années. Donc l'objectif, un des objectifs premiers de la Caisse nationale, hein, d'allocation familiale, était effectivement de rebondir sur cette information. Elle avait déjà mis en place un projet de création de 30 000 places, mais qui a malheureusement été un petit peu freiné. Il y a eu la période Covid et les confinements avec des structures fermées. Ça a été difficile pour tout le monde, structures que nous avons soutenues pendant ce temps-là. Aujourd'hui, avec notre prochaine convention d'objectifs et de gestion avec l'État, effectivement, on remet, j'allais dire, sur la table le projet d'ouverture de 30 000 places de crèche dans les 4 ans à venir. Et important également, la pérennisation de l'offre existante, hein, des structures qui sont déjà en place et qui ont besoin d'être soutenues le plus longtemps possible.
Digne, des voies cyclables aménagées et sécurisées.
Le vélo peut-il être une alternative à la voiture ? La question était au centre d'une soirée d'échanges autour des pistes cyclables dans la cité préfectorale. Provence-Alpes Agglomération a piloté la conception d'un schéma directeur cyclable à l'échelle de la commune de Digne-les-Bains. Ce plan a pour objectif de définir un ensemble cohérent d'aménagements facilitant l'accès en vélo au centre-ville depuis les différents quartiers dignois. La présentation publique de ce schéma s'est déroulée dans le calme, mais a suscité de nombreuses questions de la part du public. La sécurité des cyclistes fut au cœur du débat. Au micro d'Odile Frison, Georges Pereira, vice-président de P2A, délégué au transport, à la mobilité et à la politique de la ville, mais d'abord, le témoignage de deux personnes du public recueillies à l'issue de la soirée.
Jean-Marie Blanc, ce soir, vous étiez pour cette présentation publique du schéma directeur cyclable. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? Est-ce que c'est rassurant pour vous ?
Rassurant, je ne sais pas, parce qu'il faudra quand même voir à quelle échelle de temps les travaux vont se faire, parce qu'on sait ce que c'est que les études. Après, ça prend un certain temps. Je suis intervenu sur l'état actuel de ce qu'on appelle digne parfois des pistes cyclables, qui sont dans un état de détérioration qui est très dangereux. Et donc, il faudrait quand même que la commune, au-delà d'un plan, fasse quand même des efforts et prenne en charge l'entretien de ces voies, qui sont quand même balisées, parfois à la peinture, comme des voies qu'on peut croire cyclables. Et c'est en cela que c'est très dangereux.
Sinon, le délai d'une dizaine d'années pour réaliser ces pistes ?
Ça se fera petit à petit, il y avait des tronçons, bon c'est bien, mais j'ai peur que ça prenne encore plus de temps que ça. Voilà.
Je m'appelle Geneviève Roman, j'habite à Digne depuis bientôt 20 ans et j'habitais sur l'extérieur au départ, les quartiers extérieurs, c'était toujours très difficile de se déplacer en vélo. Question de sécurité aussi, la nuit, suivant les horaires, etc. Et là, pour cette soirée, là, je trouve qu'il y a eu une grande réflexion qui a été menée. Et je trouve que c'est très positif déjà cette réflexion. Ça va être un peu lent pour la mise en route, mais la soirée, par contre, c'est très intéressant. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu plus de gens de Digne.
La salle était quand même bien remplie.
Quand on connaît la population dinoise, le nombre de jeunes familles, etc., je trouve que c'est dommage, il n'y avait pas assez de participants. Enfin, je trouve qu'on ne roule pas beaucoup à vélo déjà à Digne. Voilà. Mais la soirée est quelque chose de très intéressant. Cette présentation était très intéressante. Comment je pourrais dire ? Je trouve dommage qu'on ne roule pas plus à vélo à Digne. Et c'est certainement pour des raisons de sécurité, de discontinuité, de zones où on pourrait, où on ne peut pas. Et pour des jeunes, on ne peut pas leur apprendre à rouler à vélo à Digne parce que ce n'est pas sécurisant.
Georges Pereira, ce soir, une soirée qui a suscité pas mal de questionnements et d'échanges avec le public, avec les Dinois, sur ce schéma directeur cyclable pour la ville de Digne. Des projets qui sont sur du long terme, quand même 10 ans.
Oui, ben, on avait souhaité que ce schéma directeur cyclable, que les préconisations soient affichées publiquement, donc au plus grand nombre. Donc ça a été le cas ce soir, puisqu'on a eu quand même une assistance quand même assez nombreuse. Donc ça veut dire que l'intérêt du vélo sur la ville de Digne, il est bien là, il est réel. Donc ça nous conforte aussi dans le fait d'avoir bien choisi en essayant de produire ce schéma directeur cyclable. Oui, on est ambitieux, effectivement, 6,5 millions sur 10 ans. Néanmoins, bon, c'est 6,5 millions avec des subventions certainement à aller chercher. Aujourd'hui, la pratique du vélo, ça devient quelque chose de presque d'obligatoire pour certains citoyens. Alors, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais aujourd'hui, voilà, si on pouvait effectivement offrir quelques aménagements aux Dignois et aux Dignoises pour pouvoir bénéficier de cette alternative à la voiture, parce que c'est ça qui est important. On ne veut pas éradiquer la voiture du domaine public, bien au contraire. Mais offrir une alternative à ceux qui n'ont plus envie de prendre la voiture ou même ceux qui ne pourront plus peut-être prendre la voiture prochainement. On pense en tout cas avec l'équipe municipale que c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Donc maintenant, voilà, maintenant il va falloir des réalisations. On a déjà, comme ça a été précisé, on a déjà entrepris certains aménagements et il y a des projets qui sont inscrits dans le plan pluriannuel d'investissement sur les 3-4 années à venir. Et voilà, donc on ne peut pas tout faire tout de suite, mais en tout cas, il y a un phasage qui permettra certainement des réalisations, même à court terme.
Donc une étude qui a été réalisée par une société ?
Oui, alors Provence-Alpes Agglomération, de par sa compétence mobilité, s'était saisie de cette possibilité de faire un schéma directeur cyclable. Alors dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, puisque l'idée c'est de redynamiser le centre-ville en y faisant venir les habitants, alors pas forcément en voiture justement, mais en privilégiant une venue en vélo. Suite à l'appel d'offres, eh bien c'est le bureau d'études Evopods qui est spécialiste en la matière, qui a été retenu par l'agglomération et qui depuis juillet 2021 a donc entrepris tout un travail de concertation, de diagnostic et de préconisation qui nous avait déjà été présenté auparavant et qui aujourd'hui a fait l'objet d'une présentation publique. Alors je tiens à souligner l'importance de ce document qui est un document cadre et qui nous permettra justement peut-être d'aller chercher des subventions peut-être plus facilement qu'aujourd'hui parce que voilà, c'est des préconisations inscrites dans le marbre et qui nous obligent en tant que collectivité responsable mais qui permettent aussi à d'autres collectivités partenaires, à d'autres instances de venir effectivement nous aider à toutes ces réalisations. Il y a beaucoup de choses à améliorer, hein, ça on en est bien conscient. Après, ben voilà, les collectivités ont les moyens dont elles disposent, on ne peut pas tout faire tout de suite, mais en tout cas déjà de s'engager dans cette démarche, je pense que c'est apprécié par la majorité des personnes qui étaient présentes et par une grande majorité de la population dignoise.
Le financement se fait par qui ?
Alors le financement de l'étude en elle-même, ça a été pris en charge dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, c'est la Banque des Territoires qui a financé. Ensuite maintenant la réalisation des infrastructures, ben c'est à la charge à la fois de la commune pour la voirie qui la concerne, c'est Provence-Alpes Agglomération aussi parce qu'il y a une partie de la voirie sur le territoire de Digne-les-Bains qui est de gestion intercommunale de par des héritages de communautés de communes précédentes. Et après, comme ça a été rappelé justement ce soir, il y a des voiries qui sont de gestion départementale, d'autres qui sont de gestion de l'État. Des fois, on aimerait pouvoir faire, mais il faut se concerter avec ses partenaires et je reviens sur l'importance de ce schéma directeur cyclable. C'est un outil pour les collectivités pour faire des réalisations, mais c'est aussi un outil de coordination entre les différents partenaires. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très très important.
Et les enjeux, donc, c'est la sécurité.
Oui, alors la première priorité pour les usagers, c'est effectivement qu'ils puissent circuler en toute sécurité. Ça, c'est très, très important. Et après, ben, ça répond de manière plus large, comme je l'ai dit en préambule, à des engagements que l'agglomération a pris dans le cadre de son plan climat, air, énergie territoriale, le PCAET. Promouvoir le vélo, pousser à la pratique du vélo, c'est une action concrète qui permet effectivement de réduire l'émission de carbone dans l'atmosphère.
Et juste pour la petite chose concrète qui est effective dès aujourd'hui, c'est le long de cette route qui mène à Intermarché.
Alors sur l'avenue du 8 mai 45, effectivement, on a un projet en 2024 de réaliser une piste cyclable puisque le département va refaire la chaussée, donc de Intermarché jusqu'au pont du Pigeonnier. Et là, il y a un point noir puisque finalement, il n'y a pas de continuité entre le boulevard Thiers et puis cette avenue du 8 mai 45. Et effectivement, dès à présent, dans le cadre de l'aménagement des zones 30, puisque au niveau communal, on a une commission qui met en place des zones 30 qui répondent en fait aux préoccupations des citoyens quant à la vitesse excessive de certains véhicules. Donc l'un des aménagements de cette zone 30 fait qu'on a décidé, effectivement, on tente juste un aménagement provisoire pour l'instant qui certainement sera définitif à court terme, d'un cheminement cyclable. Donc aujourd'hui, il y a des petits plots en plastique qui ont été installés et qui permettront, je pense, très rapidement de faire en sorte que les vélos circulent sur cet axe-là en sécurité.
La DLVA propose son premier festival pour les tout-petits.
L'idée est excellente. Du 26 au 29 octobre, Volx, Oraison, Pierre Vert et Puymoisson accueillent un festival de spectacles vivants et d'animation dédié aux 0-6 ans et leurs familles. Ce « oh », c'est l'étonnement, l'admiration et l'émerveillement dans les yeux et les rires des enfants assistant parfois pour la première fois à un spectacle. Un « oh » qui sonne comme une récompense aux artistes. Et pour atteindre ce but, les services de l'agglomération ont fait appel à des compagnies issues principalement de son territoire. Outre les spectacles proposés en matinée et dans l'après-midi, des animations et accueils sont assurés par l'organisation et ses partenaires. Tout est gratuit, mais il faut s'inscrire. culture@dlva.fr. Renseignements également au 04 92 70 34 00. 04 92 70 34 00. Écoutons deux élus en charge de ce dossier, Sandra Faure et Béatrice Garcia. Sandra Faure, vice-présidente de DLVA Aglo, c'est un festival original que vous avez monté.
Eh oui, c'est une grande première, un festival pour les tout-petits. Quoi de mieux que de pouvoir initier dès le plus jeune âge la culture dans les foyers, dans les familles, grâce aux assistantes maternelles ou aux crèches, et de pouvoir justement accueillir ces petits loulous qui vont venir découvrir le spectacle vivant, les contes, la danse, voilà, tout ce qui peut faire que la culture est belle.
Alors vous avez choisi évidemment des troupes de théâtre qui sont plutôt originaires de notre territoire, voire même du territoire de la DLVA. Et puis en plus, ça concerne quatre communes de ce territoire.
Oui, quatre communes, ça sera Volx, Pierre Vert, Puymoisson et Oraison pour 4 jours de festival. Et en effet, donc avec une programmation qui va être très locale, on a la chance d'avoir un territoire où il y a énormément de compagnies et d'associations culturelles et quoi de mieux que de les mettre en lumière.
C'est un acte éducatif.
Évidemment, c'est un acte éducatif et je le rappelle, c'est vrai que les enfants, pour moi, c'est un moteur essentiel pour la découverte de la culture et ça commence dès le plus jeune âge, donc 0-6 ans, c'est parfait.
Vous l'avez dit, il y a également des relais sur le territoire, que ce soit les bibliothèques, les médiathèques, mais aussi les associations locales.
Oui, les associations locales et le réseau des médiathèques, donc, qui fait partie du service culturel. Et c'est vrai qu'ils vont avoir un très beau rôle pendant ces 4 jours de festival grâce au Bibliobulle. Bibliobulle, ça va être une tente sensorielle où il va y avoir une découverte de contes, de petits spectacles, de spectacles de danse ou de spectacles de cirque dans ce Bibliobulle. Et en effet, c'est le réseau des médiathèques qui va le tenir avec les bibliothécaires et les bénévoles que l'on remercie.
À vos côtés, elle est déléguée communautaire à la jeunesse. Béatrice Garcia, vous connaissez bien ce milieu. Évidemment, vous vous êtes mis à la disposition de la DLVA pour organiser ce premier festival.
Oui, oui, tout à fait. C'est un festival qu'on a réfléchi et imaginé déjà depuis presque un an maintenant. Ça a été tout un travail de collaboration avec le service culturel pour arriver à mettre au point ce qui va se passer dans quelques semaines et qui, je pense, va être très riche, très, très intéressant pour les tout-petits et leurs parents.
L'éducation au spectacle vivant, bien sûr, Sandra Faure en a parlé, mais c'est aussi une manière de promouvoir les compagnies locales.
Oui, oui, tout à fait. Pour nous, c'était essentiel de pouvoir faire appel à des compagnies locales parce que sur notre territoire, nous avons la chance d'avoir des compagnies de qualité. Et bon, c'est vrai qu'on a fait appel à une ou deux compagnies au niveau national, mais l'essentiel des spectacles seront assurés par des compagnies locales et on y tenait vraiment.
C'est un festival entièrement gratuit, mais pour lequel la DLVA, évidemment, a mis la main à la poche.
Tout à fait, hein, ce festival ne se fait pas comme ça. Hein, le financement, c'est quand même la partie importante du festival. Bien sûr, DLVA Glo finance en grande partie ce festival pour que, justement, ça soit gratuit pour les familles. On y tenait vraiment à cette gratuité pour que, justement, cette culture que nous allons apporter au plus près donc, de nos habitants, au plus près du territoire, soit une offre culturelle de qualité. Mais nous avons également eu d'autres financeurs qu'il faut que je souligne et que je remercie, notamment des fonds leaders européens qui nous ont permis, en répondant à un appel à projet porté par le GAL de Haute-Provence, d'avoir un financement conséquent, puisque donc, c'est un financement à hauteur de 19 000 euros. Ça concerne les communes de Vols, Pierre-Vert et Oraison, qui font partie du territoire du GAL de Haute-Provence. Et pour la commune de Puymoisson, qui ne fait pas partie de ce périmètre-là, nous avons répondu à un appel à projet du REAP. Le REAP, c'est le réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents. Et dans le cadre de cet appel à projet, la CAF et la MSA vont nous financer à hauteur de 5 000 euros pour assurer justement des spectacles de qualité également sur la commune de Puymoisson.
Cette année donc, 4 communes qui sont servies. L'année prochaine, 4 autres communes.
Je l'espère. J'espère vraiment que ce festival emportera l'engouement que nous, on souhaite et dans lequel on a tout espoir. On verra le bilan qui sera fait à la fin de ce festival. Mais voilà, je suis très optimiste et je pense qu'on pourra chaque année proposer un festival dans des communes différentes. C'est vrai que là, pour cette première année, on a fait un appel à engagement auprès des 25 communes de la DLVA et 14 communes ont répondu favorablement. Il a fallu faire un choix. Cette année, c'est ces 4 communes-là. Et bon, l'année prochaine, ce sera 4 autres communes, je l'espère.
La vie dédiée de Claude Domézel.
C'est un élu et une personnalité politique emblématique des Alpes de Haute-Provence. Claude Domézel a passé un demi-siècle au service de sa commune de Volx et de la France. Maire de son village 35 ans durant avant de passer le relais à Jérôme Dubois tout en restant conseiller municipal, Claude Domézel a également créé et présidé le centre de gestion du 04 pendant près de 50 ans. L'établissement aujourd'hui porte son nom. Il siégea aussi au Sénat pendant 2 mandats sous l'étiquette socialiste qu'il revendique depuis l'âge de 18 ans et même avant. Spécialiste des retraites, il a aussi présidé la Caisse nationale des agents des collectivités locales, CNRACL, de 1989 à 2020. Et là où son livre « Une vie dédiée » est encore plus passionnant, c'est quand il nous plonge dans son enfance dans le Gard à la Grande Combe, village minier où il est né en 1940. Famille très modeste, laïque et généreuse, le dernier de la fratrie siégera au Palais du Luxembourg dans un parcours de conviction et d'engagement fort, mais aussi de sacrifice. Tiré à compte d'auteur, cet ouvrage contient des témoignages personnels ou politiques qui illustrent et ponctuent sa vie privée et publique. Avec l'aide de son épouse Paulette et de Jean-Yves Arnaud qui a accompagné Claude Domézel avec Constance, c'est François Malabave, journaliste à Fréquence Mistral, qui a conduit et rédigé les entretiens de ce livre. Au final, le témoignage vivant d'un élu engagé localement et socialement, Une vie dédiée est disponible dans les librairies des Alpes de Haute-Provence. Je vous propose d'écouter Claude Domézel, interviewé lors de la présentation de son autobiographie à la presse. Claude Domézel, pourquoi ce livre sur votre vie ?
Ce livre, l'idée, c'était dans un premier temps de faire partager à mes petits-enfants ce qu'avait été leur grand-père. Et puis petit à petit, l'idée est née de l'élargir et de dire, après tout, pourquoi ne pas avoir un livre qui pourrait intéresser beaucoup de nos concitoyens sur comment un sénateur, comment on devient élu, pourquoi, qui est-il, quelle a été son enfance, et puis qu'a-t-il fait quand il était sénateur, maire, voilà, c'est l'idée d'élargir le champ.
Peut-on dire que votre enfance dans un pays minier des Cévennes vous a construit ?
Oui, vous savez, quand on est en grandit, d'abord c'était pendant la guerre, hein, et tout de suite après la guerre, et on grandit dans un milieu très dur, le milieu dur des mineurs, de fonds, qui ne savent jamais quel sera leur sort dans les jours qui viennent, et des combats souvent durs, des combats pour les meilleures conditions sociales, que ce soit la santé, que ce soit l'avenir des retraites, des libertés publiques. Tout ça a été, dans ma vie, m'a marqué, et c'est la raison pour laquelle, très jeune, mais très très jeune, précocement d'ailleurs, j'ai été intéressé par ces questions, parce que j'étais dans une famille militante, et j'ai été amené à assister très jeune aux réunions de ce qu'était le Parti Socialiste à l'époque, la SFIO, ou le Conseil des parents d'élèves, qui s'appelait le SOU de l'école laïque. Et j'assistais à ces réunions, et donc très jeune, j'ai été amené à m'intéresser à ces questions politiques, des questions sur la vie de nos concitoyens.
Comment avez-vous concilié vos mandats électifs et votre vie familiale ?
C'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est très difficile de concilier une vie politique qui est très prenante. Quand on est responsable politique, ou son maire, ou qu'on est membre du Sénat, ça veut dire qu'on est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, appelé à intervenir, à travailler, quelquefois et surtout de se déplacer. Être sénateur, ça signifie qu'il faut être toutes les semaines à Paris, au moins 3 jours, donc laisser à toute la famille la maisonnée, la responsabilité de mon épouse. Et d'ailleurs, je dois dire que ce mandat, je le partage avec mon épouse, qui a beaucoup contribué à ce que je puisse l'exercer, en me donnant tout le temps qu'il fallait pour faire avoir cette mission. Donc la vie familiale et la vie politique est quelque chose de très compliqué.
Dernière question, Claude Domézel, vous avez demandé à François Malabave, une voix que l'on connaît bien sur Fréquence Mistral, de vous aider à la rédaction de votre livre. Pour quelle raison ce choix ?
Alors, le choix. Je souhaitais... j'aurais pu écrire le livre moi-même. Mais est-ce que j'allais répondre aux questions que se posent mes concitoyens ? Je pense qu'un journaliste, c'est son métier de poser les questions que se posent les lecteurs d'un journal ou les auditeurs d'une radio. Et donc, j'ai pensé que le mieux était d'écrire un livre à partir d'entretiens avec un journaliste. Ces entretiens ont eu lieu tous les lundis, de février à juin. On s'est arrêté en juin parce qu'il ne fallait pas que ça empiète sur les élections qui étaient en cours et les élections législatives, et avec un journaliste. Pourquoi François Malabave ? Eh bien, je veux dire que je connais François depuis fort longtemps et que j'ai pensé que c'était le journaliste qui me paraissait être le plus apte à mener ces entretiens. D'abord parce qu'on partage beaucoup d'idées en commun, hein, c'est important, mais surtout, mais c'est pas l'essentiel, parce que je connais François et je sais que ça a été, parce qu'il était à la retraite, pratiquement, ça a été un bon professionnel, que ce soit dans la presse écrite ou dans la presse parlée. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au cours d'une manifestation qu'on avait eue en fin d'année dernière, j'ai demandé à François s'il était d'accord de se livrer à cet exercice. Il a été d'accord, à ma grande joie.
Et c'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci Louis pour cette interview et pour la régie. À la semaine prochaine.